5. Attendez-vous à plus. Une vue d'ensemble de l'actualité.
Il va falloir que M. Proulx cesse le déni puis accepte qu'on compare les taux de diplomation Québec-Ontario. Peut-être avec cet électrochoc ce matin, les libéraux vont cesser d'en parler, ils vont se mettre à bouger.
Le système d'éducation, il est en transformation. Il y a du travail à faire, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gestes qui sont posés et des gestes positifs pour y arriver.
L'attitude du ministre, ça s'appelle du jovialisme.
Peut-il au moins reconnaître qu'il a réduit en chiffres réels le budget de l'éducation pendant qu'il était premier ministre?
Ben absolument pas. Non, au contraire, les dépenses ont continuellement augmenté.
Trinville PM.
Alors, c'est une espèce de synthèse, dans le fond, des échanges ce matin à l'Assemblée nationale, à la fois en mêlée de presse et pendant la période des questions sur ce sujet. Donc, on a abordé dans la première heure la différence extrêmement importante dans le taux de diplomation. Donc, les élèves, dans le fond, du Québec qui décrochent un diplôme en moins grand nombre. Mais alors là, l'écart est extrêmement important avec les élèves ontariens. Et pour, ontariens puis aussi du reste du Canada de façon générale. Et pour discuter de cela et de bien d'autres choses, on va aller rejoindre Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et c'est Hélène Buzetti qui nous rejoint aujourd'hui pour nous parler de la scène fédérale, correspondante parlementaire à Ottawa pour Le Devoir. Bonjour Madame Buzz.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Madame Buzz.
Bonjour Antoine.
Antoine, juste avant d'aller à la diplomation,
oui.
Il faut faire un petit détour
ben oui.
pour laisser la parole à Hélène qui va nous annoncer une triste nouvelle.
Oui, en fait, c'est un député fédéral qui est mort en fonction là aujourd'hui. En fait, on n'a pas encore totalement les détails, mais c'est Gordon Brown. C'est un député conservateur ontarien de la circonscription de Leeds-Grenville. Je pense pas que les gens le connaissent vraiment. Pour monsieur et madame tout le monde au Québec, ce qu'on connaît peut-être le plus de lui, c'est son implication, quoique un peu marginale, dans l'affaire Elbowgate. Vous vous rappelez là, quand Justin Trudeau avait accroché une députée du NPD. En fait, c'était parce que le vote qui devait avoir lieu ne se produisait pas, parce que M. Brown, à ce moment-là, qui était le whip, devait marcher dans l'allée, comme c'est la tradition, et là, il y avait un attroupement de députés qui l'empêchait, et donc M. Trudeau était venu empoigner, dans le fond, M. Brown pour le forcer à avancer et donc faire procéder le vote. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on le connaît là, davantage au Québec. Paraît-il qu'il était très aimé du caucus. Les députés ce matin étaient évidemment visiblement ébranlés.
Est-ce qu'il était toujours whip?
Non, il ne l'était plus.
Okay.
Cette fonction est occupée par quelqu'un d'autre maintenant. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est pas la première fois donc que je vous dis quelqu'un meurt en fonction.
Ben non, il y en a un qui est décédé récemment, non?
Oui, en 2016, Jim Elieux, un conservateur aussi d'Alberta, celui-là, qui a été retrouvé sans vie dans son bureau. On pense qu'il était même décédé la veille et qu'il avait passé la nuit là, a été trouvé par un adjoint. Ça arrive quand même quelquefois des députés comme ça qui meurent en fonction. Il y avait Shaughnessy Cohen, une députée en 98 qui est morte sur le parquet de la Chambre des communes. Elle s'apprêtait à prendre la parole et elle s'était effondrée. Ça, c'était assez dramatique. Là. Et peut-être coïncidence assez paradoxale, il y a un autre député comme ça qui est mort en 82, Thomas Cossett, qui était lui aussi un conservateur, lui aussi de la circonscription de Leeds-Greenville,
oui.
La même circonscription là, de M. Brown aujourd'hui. Alors, voilà.
Oui, oui, oui.
Alors, à cause de ça, là, la Chambre va siéger seulement pour faire des discours là, cet après-midi pour souligner leurs collègues et ensuite, on va plier bagages pour la journée.
Il n'y aura pas de période des questions.
Non.
Très bien. Ben écoutez, qu'est-ce que tu veux? Il n'y en a pas beaucoup de députés, hein? Ils représentent la population. Donc, c'est toujours assez dramatique là, quand on en perd un, peu importe la couleur politique. Là. Donc, ben voilà, on aura une pensée pour lui. On va aller rejoindre maintenant Antoine qui va nous parler donc de ces débats très soutenus, très intenses sur la différence du taux de diplomation québécois et ontarien. Là.
Oui, c'est ça. C'est l'Institut du Québec qui a publié une étude où on démontre finalement, dans laquelle on démontre que le Québec est encore cancre en matière de décrochage scolaire au Canada. Et non seulement ça, mais l'écart se creuse. Non seulement ça, mais l'écart est extrêmement grand entre les garçons et les filles au Québec. Donc, il y a un problème là vraiment particulier. On est une société distincte, malheureusement, à cet égard-là. Et évidemment, Ça a créé toutes sortes de débats.
Une onde de choc. Hein.
Ah, vraiment. Oui. Vraiment. Oui. Ce matin, là, c'était...
C'est parce qu'on est comme gêné un peu, hein, comme société, Antoine.
Bien, c'est ça. Le député Roberge de la CAQ là, a parlé d'électrochoc. Oui, c'est gênant. C'est gênant, d'autant plus que il y a eu beaucoup de promesses dans le passé là-dessus. D'ailleurs, avec Larry, là, on a retrouvé un extrait de la promesse de Jean Charest en 2003. Donc, les libéraux prennent le pouvoir en 2003 et voyez la promesse qui est faite par Jean Charest dans son discours inaugural.
Dans 5 ans, le taux de décrochage scolaire aura diminué. Nos écoles secondaires seront des milieux d'enseignement plus ouverts où nos adolescents auront accès à des modèles de réussite. Ils se sentiront mieux appuyés. Nous aurons augmenté le nombre de diplômés des formations professionnelles et techniques et nos universités entreverront l'avenir avec enthousiasme.
Ouais. Donc ça, c'était le 4 juin 2003. Depuis, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. Et on dirait que, par contre, que les choses ne s'améliorent pas tant que ça. Le gouvernement lui dit, attention, il y a eu un progrès depuis 2003, ça s'est amélioré constamment. Le taux de décrochage là, qu'on a positivé en transformant en taux de réussite scolaire.
Mmh.
C'est, ouais, ouais. La novlangue réussit toujours à rendre ça positif. Et donc, il y a eu des progrès, mais c'est la manière dont on calcule les choses au Québec qui est aussi particulière. Hein? Parce que quand l'Institut du Québec dit ici, c'est sûr qu'on dit que 80% des élèves québécois réussissent à obtenir un diplôme ou une qualification 7 ans après leur entrée au secondaire. 7 ans!
Mm-hmm.
Mais quand on ramène ça sur 5 ans,
oui.
Oh, là, c'est plus problématique. C'est là qu'on devient les cancres. Hein? On tombe à 64 % à ce moment-là, ce qui fait qu'on est les pires au Canada. Jean-François Lisée, ce matin, dans sa première question, il a évoqué justement la promesse de Jean Charest. Il a dit « On devait briller parmi les meilleurs. Or, non seulement on est les pires, mais... l'écart entre le reste du Canada, entre l'Ontario et nous, c'est a triplé, là. Donc, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Et donc, on peut écouter, par exemple, le ministre de l'Éducation qui a réagi, qui nous a dit que l'école était en transformation. Des fois, M. Proulx, il parle, mais... j'aimerais ça pouvoir se rattacher à quelque chose qu'il dit. On peut écouter le ministre de l'Éducation.
On n'est pas au bout de nos peines. Là. Il faut travailler encore, puis il va falloir travailler en formation. Il va falloir travailler sur ces programmes. Il va falloir rendre cette école aussi attrayante pour les garçons et les filles, que ce soit avec le numérique, que ce soit avec l'activité physique, que ce soit avec des modèles un peu différenciés. Mais il y a une réalité. Les choses tendent à s'améliorer. La preuve en est, c'est que les dernières données que nous avons sur la diplomation au Québec le disent.
Mais qu'est-ce qui existe au Québec et pas ailleurs dans le Canada?
Ah, bien là, écoutez, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on n'a pas toutes les réponses encore aujourd'hui. Alors, c'est la raison pour laquelle on travaille à mieux comprendre nos phénomènes.
Oui.
Puis, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'on dit qu'injecter plus d'argent, c'est pas nécessairement la solution. Injecter toujours plus d'argent, et effectivement, on a accru les budgets, là. En matière d'éducation. Puis on sait que c'est beaucoup le discours, quand on parle des questions d'éducation, le discours ambiant revient à une question de budget.
De ressources, oui.
Puis est-ce que c'est uniquement ça?
Mais on dit ça parfois à propos de la santé aussi. Hein?
Ça, c'est peut-être une question de gestion, mais moi, je pense que pour l'éducation, c'est que c'est pas assez valorisé au Québec, sans doute, sur toutes sortes de plans.
Ben là, il a fait référence. Il est allé très loin dans sa déclaration.
Ouais.
Antoine, quand il a dit « Une des clés, c'est l'implication des gens », il faut se rappeler, au Québec, il faut se rappeler que du côté francophone, il y a historiquement un décrochage scolaire, oui, mais aussi un décrochage parental. Il y a un décrochage de l'école. Il n'y a pas suffisamment de valorisation. Alors que du côté anglophone, je pense qu'il a raison de le dire.
Je me souviens que j'ai parlé de Jean Charest, là. Il disait aussi souvent que les parents, c'est pas uniquement le milieu scolaire, c'est toute la société qui doit s'y mettre. Et c'est ça. Donc,
soyons plus philosophiques, c'est même aussi une forme d'anti-intellectualisme.
Ah, je suis tellement d'accord avec toi.
Québec, ouais. Là, et, et ça, c'est beaucoup plus profond entre les cultures anglo-saxonnes et francophones. Ça trouve racine dans le type de religion que l'on a, qui vient d'en haut versus d'en bas. Mais de manière générale, c'est beaucoup moins apprécié d'être
intellectuel. Tu penses que c'est la faute au catholicisme?
Je pense qu'en partie,
par rapport au...
Par rapport au protestantisme.
Le protestantisme, t'as rapport avec Dieu directement par les Écritures. Donc, c'est pour ça que les taux d'alphabétisation grimpent très rapidement, même déjà au 18e siècle dans les pays protestants. Alors que dans les pays catholiques, c'est tout doit transiter par le prêtre. C'est par le truchement de l'ecclésiastique qu'on
aussi,
prend contact avec Dieu, c'est ça?
Que dans l'approche protestante, réussir dans la vie, c'est une bonne chose, alors que dans l'approche catholique, souvent réussir dans la vie, c'est de ne pas faire preuve assez d'humilité. Il y a toujours une tendance à prôner d'être sobre, humble, ce qu'on n'a pas dans les cultures anglo-saxonnes.
La crainte du péché d'orgueil. Hein,
oui,
le péché d'orgueil qui est un des 10 péchés capitaux. Hein.
Réussir, c'est un peu mal vu.
Oui. Ouais, écoutez, je pensais pas que vous iriez là. Je vous trouve pas mal philosophique, mais je trouve ça pas mal intéressant en même temps parce qu'on cherche, on cherche les.
Osons être intellectuel dans cette société qui parfois se sent dès qu'on emploie les mots justes ou des mots recherchés ou dès qu'on essaie de penser un peu au-delà du discours ambiant, ben qu'on se fait rabattre comme si on était des imbéciles.
Mais je vous relance là. De dire qu'il y a des raisons historiques ou même culturelles ou même religieuses à notre taux de diplomation plus bas qu'ailleurs, c'est une chose. De mettre ça sur les épaules ou d'en imputer la responsabilité aux parents, c'est autre chose, non?
Ben, je pense que ça fait appel à un changement de culture. Est-ce qu'on peut vraiment aller vérifier ce qui se passe dans chacun des foyers? Évidemment que non, mais peut-être qu'à l'école, par contre, l'approche que l'on a face à l'éducation, qui est beaucoup une approche souvent, c'est-tu à l'examen, ça, madame? Est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Plutôt qu'une approche de curiosité intellectuelle en général, peut-être que ça changerait notre vision du savoir et de la...
Il y a aussi le coût de l'éducation. C'est-à-dire que ici au Québec, pour être juste, il faut toujours que l'éducation soit la plus gratuite possible. Puis c'est bien, là. Je suis pas contre, là. Mais en même temps, il faudrait jamais que ça coûte rien. Et tu sais, quand tu vas trop loin dans cette idée-là de la gratuité absolue, c'est qu'à chaque fois que ça coûte quelque chose, tu te plains.
Et inversement, le fait que ça coûte rien lui enlève une valeur.
En plus. Puis j'ai trouvé bonne la réplique de Philippe Couillard ce matin à François Legault qui disait, ben nous, on veut une maternelle 4 ans pour tous tout de suite, ce qui est sans doute une bonne idée. Mais Couillard, il disait, mais vous, votre promesse en éducation, là, c'est de baisser les taxes, c'est de baisser les taxes scolaires radicalement. Et il dit, est-ce que ça va aider, ça, à la réussite scolaire? J'ai trouvé que la question était bonne. Il va falloir qu'on nous démontre que c'est une bonne affaire ou est-ce que c'est encore le réflexe québécois de vouloir que ça coûte rien, l'éducation?
En même temps, il y a des paradoxes. C'est hier ou avant-hier qu'on découvrait que c'est les élèves québécois qui sont les plus forts en mathématiques.
Oui.
Qui ont les meilleurs résultats.
M. Couillard
dans tout le Canada.
Ce matin aussi.
Ben oui.
On peut peut-être écouter un échange, si vous voulez, entre Philippe Couillard et François Legault là-dessus.
Pourquoi le premier ministre refuse-t-il la proposition de la CAQ d'offrir des maternelles 4 ans à tous les enfants du Québec?
Je vais revenir à la question au collègue. Il va falloir qu'il commence à expliquer. Il veut gouverner. Il va falloir qu'il explique ses propositions. En quoi donner 700 millions de dollars de plus de baisse de taxes scolaires va changer quoi que ce soit à la réussite de nos enfants?
L'éducation, ça devrait être notre priorité nationale. Pourquoi le premier ministre refuse d'offrir la maternelle 4 ans à tout le monde?
Il existe aussi chez nous quelque chose qui s'appelle le service de garde éducatif, qui donne également des services de qualité aux enfants de 4 ans. Alors, s'il veut être logique, il doit annoncer l'abolition des services de garde pour les enfants de 4 ans.
Et du côté du Parti québécois, on promettait surtout, c'est-à-dire on rappelait surtout le projet de loi 1191, qui est un projet de loi qui a été déposé par le Parti québécois pour établir un bouclier de protection budgétaire des services de l'éducation à l'enfance et la protection de la jeunesse. Donc,
il ne pourrait pas y avoir de compression si ce projet de loi a été adopté. Là.
Oui, il y a une question de coût de système aussi, là, respecter la hausse
l'inflation,
des coûts de système, c'est ça.
Ouais.
Exactement.
OK. On va s'arrêter parce que au retour, Mme Boss va nous parler de marijuana, le Sénat qui commence à s'en mêler. Enfin, il s'en était déjà pas mal mêlé, mais là, ça devient de plus en plus concret. Et Antoine, tu vas nous parler également des autres sujets qui ont été abordés à cette période des questions qui, ma foi, ce matin, était très, très chargée.
Oui.
Très intense, dans un instant. De retour avec Hélène Buzetti et Antoine Robitaille. Antoine, parle-nous des autres sujets qui ont été abordés ce matin.
Oui, alors, Investissement Québec, on sait que depuis quelque temps que les cadres se multiplient, comme l'a dit le parlementaire à l'intérieur tout à l'heure, comme des lapins. Il y a toujours plus de cadres chez Investissement Québec, semble-t-il. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si c'est pour le dissimuler, je ne veux pas prêter d'intention, mais Investissement Québec a fait disparaître de son site Internet un organigramme qui était assez détaillé. On démontrait, là, ça démontrait que le nombre de postes de cadres avait explosé au sein de ces services. Et on a diffusé, donc, depuis la semaine passée sur Internet, un organigramme très simple qui, à deux étages ou trois, pour bien montrer qu'il n'y avait pas tant de vice-présidents que ça.
OK, alors, attends un peu, là. Il y avait un organigramme où il y avait, mettons, 7 ou 8 vice-présidents.
Oui.
Et là, tout d'un coup, l'organigramme est disparu puis a été remplacé par un organigramme simplifié?
Oui, exactement. Ça indique maintenant qu'il y a 8 vice-présidents en plus du président directeur général Pierre-Gabriel Côté. Mais avant, écoute, on avait les... je pense que ça va jusqu'à... C'est plus d'une dizaine, là. Ça va jusqu'à 16, si je ne m'abuse.
OK, fait qu'ils n'ont pas fait de disparaître des vice-présidents.
Non.
Mais ils ont fait disparaître des petites cases pour que ça ait l'air moins fou.
Exactement. Puis ça a donné lieu à une sortie du député de Sanguin ou député de Sanguinet, mais qui est à l'intérieur.
Oui, il est fougueux, il est fougueux.
Oui, des fois je dis sanguinaire, des fois je dis Sanguin. Il est sanguinaire parce qu'il est un peu sadique dans ses questions. Puis il est Sanguin parce qu'il vient très énervé. Et ce matin, il en a posé. Il a parlé du délirium technocratique d'Investissement Québec. Puis tu vas voir comment Dominique Anglade, avec un certain flegme et calme, elle lui a répondu par l'humour. On peut écouter cet échange.
Aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est ça, M. le Président. On joue à la cachette chez Investissement Québec. Pourquoi la ministre tolère les folies d'Investissement Québec, M. le Président?
Je trouve ça intéressant que le mot délirium provienne du député de Sanguinet. Ce qui est important pour nous, fondamentalement, c'est qu'on obtienne les résultats. Et force est de constater que depuis 2 ans, justement, il y a des résultats très concrets.
En février 2018, un gestionnaire pour 5 employés, c'est indéfendable. Pendant qu'en éducation, on a des directeurs à bout de souffle qui courent pour gérer 3 écoles, les gestionnaires là, d'Investissement Québec, là, ça se multiplie plus vite que des lapins, M. le Président.
On continue maintenant avec les lapins de M. Le député de Sanguinet, qui pense sortir sans arrêt justement des lapins de son chapeau, mais sans grand succès.
Ouais, OK.
Pourquoi? C'était une bonne question.
Ben oui, ben oui, ben
8,5 employés. Un gestionnaire pour 8,5 employés, c'est un ratio important, je pense.
Oui, non, il pose des bonnes questions.
Oui.
Ah oui, puis il met de la vie. Hein?
Ah ben oui.
Hein, il met de la vie dans les échanges. C'est toujours divertissant avec Terrien. Je veux dire, puis il est passionné.
Au caucus aussi?
Il est passionné. Ah oui,
tu peux pas parler du caucus.
Je peux te dire que Terrien.
Je peux te dire que c'était divertissant.
Je peux te dire que Terrien, le gars que tu entends en public, c'est le gars que tu vois et que tu entends en privé. Il n'y a pas deux Terriens, il y en a juste un.
C'est ça.
Non, mais c'est
tout d'un bloc.
On aime mieux ça de même, n'est-ce pas?
Ben oui, certain.
Bon, absolument. Très bien. Je n'ai pas trop compris pourquoi elle faisait référence au fait que le mot délirium venait de lui et qu'elle trouvait ça...
C'est parce que dans sa première question, il avait parlé du délirium technocratique d'Investissement Québec.
OK.
Puis là, elle a dit... Ben, c'est parce qu'elle estime que quand il pose une question, il sort de ses souliers carrément, puis...
Il fait du délire aussi.
Il fait preuve d'une sorte de délirium.
Ah, ben voilà, on comprend.
C'était subtilement ce que Madame Anglade voulait dire.
Ah oui, je comprends. On va aller rejoindre Hélène à Ottawa qui va nous parler maintenant de marijuana.
Oui, le Sénat s'en mêle. Hein? Vous savez que le projet de loi y est adopté à la Chambre, mais que ses sénateurs doivent encore l'adopter. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a divisé ça en petits morceaux. Donc, chaque comité sénatorial thématique, par exemple, affaires autochtones, loi, politique sociale, etc., ont étudié des portions du projet de loi et ces petits comités ont fait rapport au comité principal qui, lui, devra commencer son étude cette semaine. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est juste que je veux vous donner un peu le portrait. Et donc, ces comités thématiques-là ont rendu leurs recommandations là, ce matin. Et il y en a certaines qui risquent, si elles sont retenues en bout de piste par le processus sénatorial, elles risquent de brasser un peu la cage. Alors, par exemple, le comité sur les Autochtones, il propose que, d'une part, on reporte l'entrée en vigueur de la loi d'un an. Bon, ça, c'est pas tellement nouveau. Il y a plusieurs personnes qui l'ont demandé, mais dans leur cas, ils disent parce que les policiers autochtones, par exemple, sont pas encore prêts pour faire face à la nouvelle loi. Mais surtout, ils disent que sur les réserves où on vendrait de la marijuana légale, il faudrait qu'on permette aux communautés autochtones de prélever la taxe d'accise, qu'ils en gardent les revenus pour pouvoir développer des industries dans leur coin. Et par ailleurs, on dit qu'on devrait réserver 20% des parts de production de marijuana aux communautés autochtones. Ça, c'est quand même pas mal. Il y en a très peu en ce moment qui sont impliqués. Ça prend beaucoup de ressources là, pour se faire accepter par le gouvernement là, en tant que producteur officiel. Mmh. Mais en tout cas, c'est une proposition qui est faite à ce comité principal qui devra décider si, oui ou non, il garde ça en place, ces recommandations-là. Mmh. Et les plus gros morceaux, c'est concernant la culture. Rappelez-vous, Québec veut interdire complètement la culture à domicile, alors qu'Ottawa dit non, non, tout le monde devrait avoir le droit de faire pousser jusqu'à 4 plants à domicile. Il y a un conflit entre les deux. Jean-Marc Fournier est venu à Ottawa récemment pour nous réitérer la demande de Québec. Alors, ce comité sectoriel, sénatorial dit « OK, on devrait effectivement clarifier la loi pour dire qu'une province a le droit de limiter ça en dessous de 4 plants et jusqu'à 0 plant. Donc, que la province de Québec et le Manitoba, les deux provinces là, qui veulent interdire la culture à domicile, qu'elles soient autorisées à faire ce qu'elles veulent faire parce qu'en ce moment, il y a une espèce de flou. Certains sénateurs ont dit non, on devrait complètement interdire la production à domicile. Tous les sénateurs n'étaient pas d'accord là-dessus. Alors, voyez, il y a encore pas mal de débats. Il y a des journalistes à quelque part qui ont dit « Ah, voilà, le Sénat recommande des changements au projet de loi. » On n'est pas encore rendu là, mais ça se peut qu'on y arrive. Auquel cas, ben, c'est le ping-pong entre les deux chambres, là, par le ping-pong législatif, le Sénat qui renvoie à la Chambre des communes, qui va renvoyer au Sénat, puis là, ça pourrait retarder pas mal les choses.
Très bien, très bien. Il nous reste quelques minutes pour retourner à Québec, parler de la pêche au saumon, mon cher Antoine.
Ben oui. Puis dans le nord du Québec, par contre, là, partie du Québec, il y a eu une décision qu'on dit avoir été prise en catimini sans trop de consultation de la part du gouvernement. Puis là, il y a des pêcheurs du nord du Québec qui sont pas contents parce que c'est selon eux, c'est fini l'accès de la pêche à tous les Québécois. Désormais, il va falloir payer les services d'une entreprise privée pour avoir accès à la pêche au nord du Québec. Alors, c'est finalement l'exclusivité de la pêche au saumon à des pourvoiries privées. Mm-hmm. Pour plusieurs, c'est un retour en arrière parce que il y a 40 ans, on avait éliminé les clubs privés sous le premier gouvernement Lévesque.
On avait déclubé, hein, comme on disait.
On disait déclubé, ah oui?
Oui,
je ne me souvenais pas de cette expression.
Oui.
Alors ça découle au fond d'une application plus stricte de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
Dit le ministre.
Ça, c'est ce que dit le ministre, ouais. Effectivement. Mm. Et le ministère aussi. Mais les pêcheurs, eux, sont vraiment en beau fusil. Et leur colère a été, répercutée à l'Assemblée nationale par Alexandre Cloutier, le député du Parti québécois, qui a posé une question à Luc Blanchette, le ministre de la Faune. On peut écouter l'échange.
Mm-hmm. Comment le ministre explique-t-il que dorénavant, il va falloir débourser une fortune pour pouvoir accéder à nos plus belles rivières du Québec?
La priorité, c'est vraiment les Inuits qui ont accès libre à leur territoire de façon d'avoir accès à une ressource alimentaire. À la base, la Convention de la Baie-James, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'on vient confirmer par notre action. Maintenant, La Fédération des pourvoyeurs du Québec a un projet fort intéressant de rendre accessible à la population de 17 ans et moins au Québec, dans le sud du Québec, dans des rivières plus accessibles, où il y aura du catch and release, c'est-à-dire tout le poisson pêché de saumon, on devra le remettre à l'eau. Ceci donnera un accès libre à notre clientèle québécoise qui en sera très contente.
Ouais, pas vraiment répondu à la question. D'ailleurs, je dois dire aux auditeurs qui s'intéressent à ce sujet-là, on va l'aborder dans la dernière heure autour de...
Ah, tu vas parler à Alain Cossette?
Non, je vais parler à Julien Cabana, qui est un chroniqueur qui connaît très, très bien ce dossier-là.
Chroniqueur du Journal de Montréal.
Exact. Et moi, je suis vraiment pas convaincu par la réponse du ministre. D'ailleurs, on lui a demandé de venir s'expliquer et il était trop occupé. Il y avait un conseil des ministres. Mais pour avoir déjà été au conseil, je sais qu'on est capable de sortir 5-10 minutes, donner une entrevue. Mais c'est un autre dossier. On en reparlera.
La Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec pas du tout le ministre.
C'est bien clair, c'est bien clair. On va en parler dans la troisième heure, fait que je ne vais pas perdre ma salive à répéter ce que je dirai tout à l'heure. Fait que on va s'arrêter là-dessus. Hélène Buzetti, c'est toujours un plaisir. La correspondante parlementaire à Ottawa pour Le Devoir. Madame Boss, vous êtes libérée.
Merci, au revoir.
Et Antoine Robitaille, le chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec.
Au revoir.
Au revoir. Et Loïc Tassé s'en vient avec l'international.